Bonjour à tous, 11h sur Fréquence Mistral et l'on se retrouve comme chaque année pour notre émission spéciale en direct des correspondances présentée par François Malabave. Bonjour François.
Oui, bonjour Agathe, bonjour à tous. Une heure ensemble pour parler des correspondances. Et avec au sommaire de cette émission, cette première émission, un beau plateau, nous parlerons de l'expérience, entre guillemets, de traces de vie avec James et Sophie, ainsi que Stéphane. Nous parlerons des lectures de Sophocle avec Martine Casanova, qui propose ses lectures sur les places de Manosque. Et puis, nous avons la chance d'accueillir Christian Olivier, qui évoquera le spectacle Tête Raide et la liaison entre la littérature et la musique. Enfin, nous parlerons aussi littérature avec Moshe Sakal, nous entendrons Frédéric Forté, tous deux étaient ou sont en résidence à Manosque dans le cadre des correspondances et bien sûr, nous entendrons le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon. Et on commence tout de suite avec monsieur le directeur. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir pour cette première émission. Comme d'habitude, les correspondances, ça démarre aujourd'hui les trois coups, c'est à 17h très exactement, mais ça a déjà un petit peu démarré.
Ça a un petit peu démarré parce qu'en ce moment, il y a une lecture musicale pour les enfants. Et puis comme on brouille un peu les pistes, il y a aussi un démarrage officieux qui est dès 16h avec Frédéric Forté et une déambulation dans les écritoires pour découvrir les textes qu'il nous a écrits durant sa résidence à Manosque. Et puis évidemment, officiellement, 17h, l'inauguration et 18h, la première grande rencontre littéraire, un débat avec Philippe Djian.
Philippe Djian qui vient d'écrire « Oh ». Un titre très court pour un roman et c'est la première fois que Philippe Djian vient à Manosque, me semble-t-il.
Pas du tout.
Non. Eh bien voilà, ça commence mal.
Non, il est venu une première fois avec Stéphane Escher parce qu'ils avaient envie d'inventer un dialogue littéraire et musical entre eux et on avait ouvert le festival avec eux il y a probablement 4 ans, là j'ai pas la mémoire exacte.
Mais c'est la première fois qu'il vient me parler d'un de ses romans.
Non plus,
oh là là.
Il est venu l'année dernière, c'était là pour le coup une des premières fois où il acceptait de parler de son écriture sur une scène comme ça, parce qu'il a toujours un peu fui les débats publics, il ne le faisait qu'à l'étranger, voilà, il n'avait pas envie de faire ça. Et puis, se souvenant de Manosque et de sa belle expérience avec Stéphane Escher, il a enfin accepté de venir pour un débat littéraire. Et puis, comme son nouveau livre, je l'ai trouvé vraiment formidable, je me suis dit, bon, je déroge à une règle que je m'étais donnée, qui est de ne jamais réinviter quelqu'un 2 années consécutivement. Et j'ai proposé à Philippe Djian de revenir cette année. Voilà.
Donc il revient pour cet exercice un peu particulier, hein, d'un débat quasiment en public. Le public peut intervenir à la fin de l'interview qui se fait à Manosque sur la place de l'Hôtel de Ville. Toujours un moment un peu délicat avec des écrivains qui ne sont pas habitués à ce type d'exercice. Et un moment que les lecteurs apprécient énormément à Manosque.
Oui, c'est toujours compliqué à l'écrivain de répondre à des questions parce qu'il pense parfois qu'il a tout dit dans son livre. Enfin voilà, c'est l'ambiguïté. Et en même temps, non, parce qu'il parle d'un projet littéraire au-delà du livre. Là, en l'occurrence, Philippe Djian, évidemment, il va nous parler de son dernier livre, Oh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de remettre en perspective avec tout son parcours, de rappeler aussi ce livre formidable qu'il avait écrit qui s'appelle Ardoise, où il explique que son entrée en littérature s'est faite à partir d'une dizaine d'auteurs, la plupart américains d'ailleurs, et il explique un peu la dette qu'il peut avoir à l'égard de ses auteurs, il explique à travers ses auteurs sa conception de la littérature, son projet littéraire, donc voilà, on remet les choses aussi en perspective, et donc il sera interrogé aussi sur ce mode-là.
Et dans cet exercice, il y a aussi des moments assez étonnants. Des fois, il y a des questions très maladroites qui sont posées par le public, mais des fois aussi des questions très fraîches et qui bousculent un petit peu les choses. Et j'aime bien ça, moi, parce qu'on est là on est ailleurs que dans le politiquement correct, et ça me plaît bien. Et j'aime bien aussi quand ça se bouscule un peu comme ça. La soirée, Olivier, ben ça y est, c'est la musique et la littérature avec Christian Olivier et Tête Raide.
Oui.
Ça. On en parlera tout à l'heure avec
d'accord,
lui,
d'accord.
Mais c'est une belle entrée en matière aussi quand même de dire tiens on va allier aussi bien la musique que la littérature, c'est une des habitudes et c'est récurrent dans les correspondances.
Oui, c'était vraiment dans les idées d'origine de montrer que la littérature est aussi une matière artistique vivante qui peut se frotter avec d'autres formes de création, qui peut rentrer en résonance, et que c'est aussi une façon de porter la littérature que de la porter avec la musique ou avec l'image. Voilà, donc on a toujours fait ça, et c'est vrai qu'on l'a un petit peu accentué parce qu'il y a vraiment des pistes artistiques très excitantes.
À côté de vous, et on va parler avec lui tout à l'heure de son roman, mais il est en résidence à Manosque depuis vraiment très peu de temps. Il a pris le relais de Frédéric Fortet, c'est Moshe Sakal. Bonjour Moshe.
Bonjour.
Vous allez être manosquin pendant quelques temps.
Je le suis depuis une semaine déjà.
Comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre avec les manosquins, aussi bien pendant les correspondances qu'après les correspondances?
C'est tout à fait différent pour moi. Tout d'abord, il faut dire que 6 ans après avoir quitté la France pour regagner ma ville natale qui est Tel Aviv, ce sont des retrouvailles pour moi. La France, c'est toujours une sorte de terre promise. Donc il y a ça. Ce n'est pas n'importe quel endroit, quel pays, quelle ville. Je vais ici faire 2 choses tout à fait différentes. D'une part, travailler sur un nouveau roman, c'est-à-dire m'enfermer, m'isoler un peu, c'est une chose très intime. D'autre part, il y a le festival, ce festival est vraiment fascinant que j'attends. Et là, je vais rencontrer le public. Donc, j'attends les deux.
Vous restez avec nous pendant toute l'émission, puisqu'on va parler de Yolanda, qui est votre roman dans un petit instant. Je vous propose d'écouter Frédéric Fortet, qui vous a précédé un petit peu et qui, en ce moment, est en train de... Non, tout à l'heure, à 16h, sera en promenade déambulatoire littéraire à Manosque. Frédéric n'a pas pu être des nôtres ce matin, mais il nous parle de sa propre expérience concernant cette résidence. Frédéric Fortet, vous avez participé aux correspondances de Manosque et vous étiez en résidence à Manosque. Qu'est-ce que vous avez fait très exactement pendant votre résidence?
Il y avait 2 aspects. Il y avait déjà, je suis venu pour écrire un texte de création en rapport avec les écritoires, donc qui parsèmeront la ville au moment du festival. Des textes qui seront des descriptions de lettres imaginaires, des lettres de fiction. Donc un texte qui peut lui-même engendrer donc l'écriture d'une lettre par quelqu'un visitant les écritoires. Et cet ensemble de textes, pourquoi pas, de lettres, pourrait fonder une sorte de roman épistolaire potentiel. Ça, c'est l'aspect de création, donc le travail d'écriture que j'ai mené les semaines où j'étais là. Et il y avait aussi un aspect très intéressant, qui est un aspect de rencontre avec des publics, des populations de Manosque, aussi bien des enfants, des élèves de l'école internationale, que des publics, alors au centre culturel Giono, à la librairie La Carline à Fort-Calquier, là, et aussi également à la médiathèque de Gréou. Et j'ai fait aussi une rencontre très intéressante avec des gens à l'association Porte-Accueil, des personnes qui n'ont pas de domicile fixe et avec qui j'ai échangé autour de la littérature. C'était passionnant. Donc c'est ces 2 aspects-là, création et puis rencontre avec les gens qui vivent ici.
Qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, dans votre œuvre, entre guillemets?
Ce que ça m'apporte particulièrement ici, c'est que ce que j'ai été amené à écrire pour les écritoires est quelque chose qui, pour moi, touche plus à la fiction que ce que je fais d'habitude. Je suis poète. J'écris des poèmes de différentes formes, mais là, ce qui a émergé, ce sont des textes de fiction, de micro-fiction, si vous voulez, qui tendent vers vers la narration, le récit, la fiction. Ce qui est amusant, puisque le festival est un festival tourné vers le roman avant tout. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre à écrire des romans, mais que j'ai tourné un petit peu ma focale du côté de la fiction. Après, les rencontres, c'est quelque chose que j'aime faire et que je fais dans différentes circonstances.
Et se plonger comme ça dans la vie d'une ville, c'est aussi passionnant?
Oui, parce que chaque ville a son rythme. Moi, j'ai eu la chance de vivre plusieurs semaines là, au centre-ville de Manosque, donc ce côté charmant, une sorte de petit nid comme ça. Et j'observe, je prends en compte différentes nuances, tonalités que je perçois. Mais c'est difficile à exprimer comme ça, mais ça joue forcément sur l'écriture.
Et puis après la résidence, il y a les correspondances, autrement dit le festival. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le festival, Frédéric?
Eh bien, il y aura deux choses. Alors d'abord, je vais faire deux séries de déambulations, d'écritoire en écritoire, pour présenter justement ce travail que j'ai écrit. Donc il y aura un travail de lecture et de marche et de discussion avec les gens qui voudront bien me suivre. Et également, j'interviendrai dans le cadre d'une des siestes littéraires. Je lirai un texte en rapport avec une chanson qui sera donc interprétée par un des trois musiciens qui seront là.
On peut rappeler aussi que vous êtes poète et donc que vous jouez avec les mots.
Oui, pour moi, c'est le travail sur le langage, c'est un travail qui a rapport avec le rythme, le son, les images. Pas forcément le sens de comme on l'entend, on va dire, pragmatiquement, mais vraiment avec cette idée que le langage est aussi une matière avec laquelle on peut s'amuser de différentes manières, s'amuser ou en tout cas s'exprimer.
Merci Frédéric, bonne correspondance à Manosque.
Merci à vous, bon festival.
Frédéric Forté, que vous pouvez retrouver à 16h pour ses déambulations, pour cette première journée des correspondances. Martine Casanova nous a rejoint. Bonjour Martine.
Bonjour.
Vous êtes un professeur de français émérite à Manosque, connu par beaucoup de générations d'élèves, et vous proposez avec quelques autres enseignants, depuis déjà plusieurs années, des lectures de textes antiques dans le cadre des correspondances.
Oui, nous avons commencé en 2009. Nous étions quelques-uns à être très attachés à l'Odyssée et nous avions envie de lire l'Odyssée en public. Et nous avions fait part de ce projet aux correspondances qui l'ont accueilli, qui ont fait un très bon accueil et qui nous ont proposé de le faire à l'Hôtel Volant. Donc en 2009, nous avions... Les quelques-uns au départ du projet ont proposé à d'autres personnes intéressées de faire cette lecture qui devait être une lecture intégrale de l'Odyssée. Et donc nous l'avons faite, c'était pendant les 4 jours des correspondances, nous lisions l'Odyssée matin et soir. Et en général à l'hôtel Volant, mais quelquefois sur les places effectivement. Et puis... C'était un petit peu maladroit, mais on s'y est lancé avec tout notre cœur. Et l'année d'après, devant ça avait assez bien marché. L'année d'après, nous avons décidé de reconduire ça avec l'Iliade cette fois. Et puis l'an dernier, en 2011, petite pause. Mais en fait, les gens qui y avaient lu avaient envie de continuer. Nous nous sommes retrouvés, tout le monde avait envie de continuer. Et avait envie aussi de rester toujours dans ses œuvres de la littérature grecque antique. Et alors, nous avons cherché quel autre personnage, après les personnages d'Homère, pouvait nous intéresser et intéresser les gens à qui s'adressaient ces lectures. Et nous avons pensé à Œdipe. Et donc, nous avons choisi la trilogie de Sophocle, c'est-à-dire 3 tragédies de Sophocle autour de l'histoire d'Œdipe, Œdipe roi, Œdipe à Colone et Antigone. Et c'est donc cette année, à l'Hôtel Volant, 3 séances, chacune consacrée à l'une des tragédies dans cet ordre-là. Demain soir à 18h, vendredi soir à 18h et samedi matin à 10h.
Est-ce que c'est un exercice difficile pour un enseignant ou un ancien enseignant que de s'adresser à un public qui passe dans une rue ou qui vient écouter des textes et qui n'est pas susceptible d'être noté ou collé comme un élève?
Nous n'avons pas que des enseignants, loin de là. Les gens du groupe seraient déçus s'ils entendaient qu'il n'y a que des enseignants. Non, il y a d'autres... Dès le début, il y a eu des gens qui n'étaient pas enseignants, il y a des gens qui ont vraiment des métiers divers, il y a des...
Et qui veulent simplement partager les connaissances du texte.
Il y a des soignants, il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des lycéens, donc c'était très... ce sont des lecteurs qui très variés et qui ont envie, oui, qui ont envie à la fois, qui s'intéressent à ces textes, mais qui ont envie de lire en public. Et on s'y prépare, hein, on le prépare, donc c'est pas trop difficile, enfin, si on a envie de le faire, ce n'est pas trop difficile.
Oui, je suppose. Vous avez choisi des textes de Sophocle, qu'est-ce qu'il apporte Sophocle au XXIe siècle, à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus qu'on n'aurait pas?
Je crois que on est, si les gens qui entendront ces lectures ou qui les connaissent déjà, enfin, sont frappés de l'actualité de ces œuvres, et en particulier bon, le personnage d'Œdipe, ce personnage d'Œdipe que tout le monde connaissait dans l'Antiquité, puisque lorsque Sophocle présentait ses tragédies autour d'Œdipe, les gens, les Grecs, les connaissaient déjà l'histoire. Ce personnage d'Œdipe, il est resté, il n'a jamais été oublié, il a inspiré les écrivains, les artistes au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, dans Œdipe roi, intrigue, enfin, toute cette histoire d'Œdipe à qui un oracle annonce qu'il tuera son père et qu'il épousera sa mère, est menée vraiment comme une enquête policière. Et c'est très avec beaucoup de suspension dramatique. Et donc, c'est très. Voilà, c'est en même temps, quand on sait après. Ce que Freud, par exemple, a fait de la figure d'Œdipe, on voit que c'est un personnage qui nous parle aujourd'hui beaucoup encore. Et quant au personnage d'Antigone, c'est toujours Antigone aussi. Antigone a traversé les siècles. Selon les époques, son personnage a été montré. Enfin, on a accentué certains aspects de ce personnage ou d'autres selon les époques. Par exemple, à l'époque de la guerre et de la libération, c'était le symbole de la liberté. Et Antigone, c'est toujours le symbole la résistance aux lois, quand on a quelque chose de plus fort que les lois à défendre. Et donc, ce personnage d'Antigone reste très actuel. Et hier, par exemple, j'entendais à la radio une jeune femme qui militait contre le nucléaire et qui était interviewée à la radio. Et elle disait, elle avait un discours qui finalement faisait penser à celui d'Antigone, parce qu'elle disait qu'elle était tellement persuadée d'avoir raison que ce qui l'a motivée était bien plus fort que la loi d'aujourd'hui, qui lui paraissait peu, finalement, passagère, qui pouvait changer. Et ça lui paraissait tellement plus important que c'était ça qui l'a motivée, même si par ailleurs elle avait été en garde à vue, etc. Enfin, voilà. Et en l'entendant, je me suis dit, mais le discours de cette jeune femme, c'est le discours d'Antigone.
Merci Martine Casanova d'avoir été mon invitée, puis je vous souhaite un très bon festival et puis de très belles lectures. Vous avez déjà prévu quelqu'un pour l'année prochaine, un grec encore
Pas encore.
Non, pas encore. Alors cette année, mettons l'accent sur Sophocle, c'est une belle, belle opération et que je salue bien bas, parce que c'est une jolie opération, je le rappelle, et puis en même temps, ça permet de mettre en exergue quelques textes qu'on oublie et qui peuvent être d'actualité, qui peuvent nous apporter quelque chose. Un petit peu comme les chansons de Tête Raide, d'ailleurs, quelque chose qu'on va, on va écouter dans un instant. J'aurai le plaisir de recevoir Christian Olivier. Tête Raide, c'est très simple, ce sont des chansons que vous avez certainement l'habitude d'écouter sur notre antenne, comme par exemple celle-ci qui parle d'un certain guignol.
On sait bien que tout ça, c'est du guignol, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas, qu'on en rigole. Gole, 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 de cette mascarade empaquetée que nous livre la bonne société. Le reste n'est qu'à faire de branquignoles. Gnole, 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 gnole. Y a toujours eu les uns et puis les autres. Y aura toujours du pain pas pour les autres. La miche bien dorée, moi j'en raffole. Folle, 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 folle. Deux, trois gouttes bien après, si flottante, tu rentres du cabaret, chancelante, chancelante. Tu sais bien que tout ça c'est de la bricole, du précaire emballé, c'est pesé. Les éclats d'une vie qu'on rafistole, tolle, 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 tolle. On avait pourtant pressenti la chose tant pressant pour dire on a. Fais livrer tant de chair à la casserole. Roll, 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 roll. Alors on s'engagea sans yeux ni bras. On rampera même s'il le faudra. Mais on ne loupera pas la farandole.
Guignol, Tête Raide, qui seront sur scène à Manosque ce soir pour quasiment l'inauguration musicale des correspondances. Bonjour Christian Olivier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir parce qu'on vous diffuse régulièrement sur notre antenne et on parlera avec vous de cette prestation que vous allez offrir ce soir à Manosque. Une prestation très littéraire et musicale.
Bah ouais, toujours. Faut toujours être littéraire et musical. Enfin, on a toujours un petit peu, de toute façon, tourné autour de ça. Mais en tout cas, bon, là, effectivement, ça s'inscrit en même temps dans le festival. Et voilà, c'est avec. On est super content, en tout cas, d'être présent là déjà sur le festival et puis de présenter ce spectacle.
Les notes pour la musique, les mots pour les paroles. Mmh. Les mots, c'est quelque chose de magique pour vous?
Bah, c'est une matière, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme, ouais, c'est vraiment une matière comme de la terre ou comme du papier, des chiffons. Ouais, c'est une matière qu'on doit malaxer, qu'on doit triturer, qu'on doit, tirer dans tous les sens pour retrouver un sens, et puis une énergie aussi, puisque les mots, c'est de l'énergie aussi.
Alors, Tête Raide, justement, c'est l'énergie au sens pur sur scène. Mmh. Des instruments, très souvent des instruments acoustiques d'ailleurs, et une espèce d'ambiance un petit peu foutraque. Et puis tout compte fait, c'est pas du tout foutraque, c'est bien étudié.
C'est écrit, hein.
C'est bien étudié, c'est bien lancé, c'est bien envoyé, et c'est toujours très énergique. C'est un collectif, en fait, votre groupe.
Bah, c'est un collectif dans le sens où les gens sont là depuis les premières notes du groupe. Le premier album est sorti en 88, donc les premières notes c'était
ça
même un petit
bail.
Peu avant. Donc il y a une base qui est là depuis le départ. Ensuite le collectif il agit vraiment au moment où je dirais que moi j'ai un premier travail plus de d'écriture à la fois de texte et de mélodie. Et ensuite tout ce qui est arrangement se passe en groupe. Et ensuite le collectif il est pas juste les mots, il est aussi des fois le côté pratique. Je dirais que le collectif, c'est si Tête Raide est là aujourd'hui, c'est aussi que chacun de nous, on a agi à des endroits qui sont pas forcément des endroits visibles non plus, mais garder une ligne, continuer à travailler comme on a envie de le faire, ça demande de toute façon un investissement total à tout niveau, quoi.
Et ça demande aussi un engagement que vous fournissez depuis déjà pas mal d'années.
Voilà, l'engagement il est là, c'est-à-dire l'engagement pour moi à Tête Raide, c'est faire ce qu'on a envie de faire depuis le départ sans avoir de compte à rendre à personne, que ce soit avec les maisons de disques ou avec autre chose. Donc voilà, le projet, quand on a un projet, de toute façon, on fonce dedans et on essaye de mettre tout en place pour que ça aboutisse, quoi.
On peut dire, dans un premier temps, vous étiez un petit peu à contre-courant de tout ce qui se passait, et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était un véritable courant, avec tout d'un coup l'accordéon qui revenait, avec des instruments acoustiques, que ce soit des cordes ou bien des cuivres, avec une belle énergie, avec une belle puissance. Il y a des petites Têtes Raides qui sont nées.
Sûrement, enfin, ça, c'est pas moi de le dire, en fait, mais. Ça fait partie aussi des choses que je regarde pas forcément. Je dirais que voilà, ça avance. Si ça a donné envie, en tout cas, à des gens de se lancer dans soit des instruments, soit de se remettre à écrire du texte, soit voilà, tout ça c'est super. Mais c'est vrai que voilà, je m'arrête pas forcément là-dessus. On continue à toujours essayer de faire des choses nouvelles, de toujours se remettre en question, bien entendu, et essayer de faire avancer. Donc cette histoire, effectivement, de texte qui, dès le départ, pour moi, voilà, j'ai démarré la musique avec des auteurs aussi, dont on dira quelques textes ce soir.
Alors justement, quels auteurs? Je sais qu'il y a Vian.
Il y a Vian, il y a Dujeunet, mais voilà, enfin, les auteurs. Moi, j'ai démarré assez tard, en fait, l'écriture et les bouquins à lire, quoi. Mais j'ai démarré par voilà le Genet, par l'autre Hamon, par Mayakovsky, par toutes ces choses là et donc après j'ai vraiment plongé dedans et depuis je suis toujours dans la piscine, quoi.
Et ce soir les autres plongeurs avec vous vont nous proposer à la fois des textes et des chansons. Comment vous allez articuler tout ça?
C'est beaucoup des textes. Il y a quelques chansons, mais vraiment, on est parti vraiment sur les auteurs. Donc, ça circule un peu sur les auteurs dont je viens de vous parler, c'est-à-dire Genet. Il y a du Stig Dagerman aussi. On fait un passage avec Stig Dagerman. Il y a un bout d'Apollinaire. Il y a un bout de Rimbaud. Il y a un bout de Artaud qui passe aussi dans le coin à un moment donné, puisque Artaud fait partie aussi moi des lectures de départ et qui sont restées pour moi. Voilà, quelque chose de Quand on parlait de matière, pour moi, c'est ça. C'est la matière, c'est ça. C'est organique. C'est les mots. C'est tout le temps en mouvement.
J'imagine le plaisir avec lequel vous avez abordé cet exercice que vous a demandé Olivier Chaudançon de faire cette soirée.
Ah, c'était ouais, bien sûr. Il y avait
et de dire tiens, on va partager avec vous votre amour de la littérature, les gens qui vous ont accompagné depuis votre adolescence, et de faire partager ça avec le public manosquin qui devient de plus en plus, j'allais dire pointu. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Il devient exigeant, ce public manosquin.
Oui, non, mais j'ai pensé tout à l'heure à propos des questions dans le cadre des débats littéraires. Un des éléments frappants, je trouve, c'est au fil des années la qualité des questions qui sortent comme ça du public. Voilà, donc ça c'est un indice en effet que le public s'est nourri au fil des éditions du festival. Et quant au spectacle, au concert littéraire, en effet, il commence à en avoir entendu pas mal. La première année, c'était Higelin, mais bon, il y a toujours 3 ou 4 concerts littéraires aux correspondances, donc ils découvrent des choses assez audacieuses, des choses uniques, puisque à chaque fois ce sont des créations, donc voilà, ils en ont pas mal dans l'oreille, et ce sont des oreilles averties.
Ouais, et je crois que les artistes sont friands aussi de proposer autre chose, quoi, de dire, quand on a pénétré par exemple dans la bibliothèque de Clarica, c'était intéressant, parce que bon, on a découvert des auteurs, et en même temps, ça fait partie de son bagage culturel, intellectuel, très personnel, et ça c'est bien. C'est ce que vous allez faire ce soir, Christian.
Ouais, puis je crois que ce qui est intéressant, en dehors de, voilà, les gens qui découvrent aussi, parce qu'il y a des gens qui découvrent à la fois des auteurs, des fois des artistes, puisque il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout Tetraed, qui connaissent les auteurs, mais qui vont voilà, donc les croisements dont parlait Olivier tout à l'heure, à la fois les mots, la musique, l'image, c'est quelque chose. Bon, nous on a toujours travaillé autour de ça. Il y a pas de voilà, tout ce qui est case, il faut faire exploser tout ça, puisque c'est, il y a de toute façon des correspondances entre toutes ces formes artistiques, et je dirais que voilà, c'est toujours la découverte, quoi.
Combien vous serez ce soir sur scène?
On sera 8, puisque d'habitude on est 7 sur le plateau, et là on a une violoniste qui nous a rejoint, et on est bien contents. Ouais.
Donc c'est à partager ce soir. C'est à quelle heure, Olivier?
À 21h.
À 21h sur la grande scène du théâtre Jean Lebleu. Et je ne sais pas s'il y a encore des places, mais en tout cas, ce sera un grand moment ce soir, Tetraed à Manosque. Vous reviendrez encore? Je sais que Jean est venu 3 fois.
Ouais.
Donc,
on va essayer de battre le record de Jean. Alors. On reviendra.
Ce sera avec grand plaisir. Merci, Christian.
Merci
à bientôt.
À vous.
Retour en plateau en direct des correspondances, les correspondances de Manosque qui démarrent aujourd'hui même. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos amis de Traces de Vie, notamment Doc James, qui officie de temps en temps sur notre antenne. Bonjour James.
Bonjour.
On peut rappeler brièvement ce qu'est Traces de Vie dans sa démarche?
Alors Traces de Vie, au départ, c'est un projet qui part dans une institution où on accueille des sans-domicile. Les mots font sens, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la mémoire des textes antiques, où on retrouve des textes qui ont traversé les générations pour arriver jusque nous. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. Tu parlais d'Oedipe, de Freud. Et on en arrive des fois dans un centre d'hébergement à parler de ces problèmes avec les gens qui sont mal, parce que justement il y a eu des choses qui n'ont pas été résolues à ce niveau. Et ainsi l'écriture, les mots font sens, et ainsi on arrive à reconnecter des gens qui sont dans la rue depuis des années avec les mots qui font sens. Et donc on va repuiser des fois, revisiter dans ces textes anciens des notions, évidemment, que on n'a pas toujours dans la vie quotidienne, parce qu'on ne vit pas avec Oedipe et Freud tout le temps, 24 heures sur 24, mais en attendant, nous qui sommes des travailleurs sociaux et qui avons une accointance avec la littérature et l'art, puisque nous sommes tous les deux artistes avec ma collègue qui se présentera tout à l'heure, on essaye de proposer des projets autour de la littérature qui ont été retenus par les correspondances et qui nous ont permis de nous exprimer pour montrer qu'on peut, à un moment donné, grâce aux mots, retrouver du sens.
Avec une première édition, c'était l'année dernière, un moment très émouvant, Trace de vie, avec des personnes qui se sont retrouvées sur une scène à la place d'Herbès, et c'était magnifique, un grand moment de partage avec le public, et des traces de vie qui peuvent servir de reflet de notre société aussi, et qui nous questionnent, donc voilà, ça c'est important.
Des traces de vie qui ont été écrites par chacun des participants, des sans-domicile, des toxicomanes, des sortants de prison... mutualisé avec le groupe d'entraide mutuelle, donc c'était à l'association humanitaire Porte Accueil et le groupe d'entraide mutuelle Le Chat qui tousse à Manosque. Nous avons eu l'honneur que les correspondances nous fassent partager la venue des auteurs en résidence, et notamment de François Bonne qui nous a appris à réécrire sur le spontané, c'est-à-dire regarde ce qui sort de ton cœur, ce qui sort comme ça d'un coup, et ensuite retravaille-le pour parler correctement, pour être dans un cadre, pour essayer de se rassembler. Et tel est le sens de cette démarche, au départ, qui est un projet éducatif. Moi, dans ce projet, je suis éducateur, je ne suis pas du tout écrivain, mais pour l'instant, je suis qu'un écriveur, j'essaye d'écrire. Mais en tout cas, ça a été énorme, cette expérience. Les personnes qui ont participé à cette expérience ont pu concrètement se réinstaller dans la vie de manière durable et grâce à l'ouverture des correspondances d'Olivier qui nous a fait confiance, parce que la programmation des correspondances, c'est des têtes d'affiche, c'est des gens connus avec, pour un public. Et là, on a pu venir s'exprimer et ça a été pérennisé. On a pu se rencontrer et dire, allez, on laisse un espace aussi pour du local, mais autour de la littérature et où les écrivains s'impliquent. Voilà. Voilà cette expérience qui continue et qui permet à des gens de se réinsérer vraiment et de manière pérenne.
Olivier Chaudançon, il y avait un risque au niveau des correspondances d'inviter un spectacle aussi étonnant, aussi surprenant que celui qu'a proposé Trace de vie ?
Un risque, non, le mot est trop fort, mais une inconnue, qu'est-ce que ça allait donner ? Et en effet, on a aussi toujours ce souci, cette interrogation. On est tout à fait ouvert à recevoir des projets qui nous sont proposés, mais on veut ne jamais perdre de vue le centre de gravité du festival, qui est la littérature. Si bien que même lorsqu'on travaille avec des amateurs, on veut qu'eux-mêmes soient en contact avec cette idée de littérature. D'où, en effet, la rencontre organisée avec François Beaune l'année dernière ou avec Frédéric Forté cette année, c'est que même quand on est dans une écriture amateur, on doit aussi avoir le point de vue de la littérature et se rendre compte que ce sont deux choses différentes, qu'on est dans la pratique de l'atelier d'écriture, etc. Donc voilà, toujours cette mise en perspective. Mais là, elle a particulièrement fonctionné l'année dernière, c'était très fort, c'était très émouvant, enfin, ceux qui ont assisté à ça et aux réactions du public qui étaient profondément touchés. Nous font dire que ça a vraiment toute sa place dans le festival.
Avec en plus des plumes talentueuses parmi certaines personnes, et c'était vraiment un bonheur. Et nous, pour les connaître assez bien, effectivement, à la radio, puisqu'on les reçoit et on travaille un petit peu avec James depuis quelques années, c'est un bon moment. Il y avait d'ailleurs de grands moments pendant les correspondances ici même, avec Jacques Bonafé, avec Lionel Salin, avec des résidents de Porte Accueil. C'était aussi un bon moment. Sophie Terrade-Morel, vous êtes
bonjour.
Aussi... Bonjour. Vous êtes aussi... animatrice au Chat qui tousse, mais également comédienne, et c'est à ce titre que vous avez travaillé un peu avec Trace de vie. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette expérience ?
Alors moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis ici aujourd'hui en tant que salariée du Chat qui tousse, qui est une association pour des personnes en souffrance psychique, avec un bureau qui est constitué par ces personnes-là. On est trois salariés, donc il y a un axe qui est plutôt au niveau du sport, qui est une éducatrice sportive, et une plasticienne, et puis moi-même, donc qui est effectivement une autre casquette en tant que comédienne. Donc je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui tourne autour de l'acte de parole, on pourrait dire ça comme ça, avec un axe par rapport à la radio, avec grâce à James, puisque c'est lui qui m'a fait rencontrer Fréquence Mistral, et avec un espace qu'on a pu investir avec les Insolites du Chat, et avec donc le Chat qui tousse, avec une émission de temps en temps. Et puis l'aventure des correspondances, avec ce travail que j'essaie de faire avec eux, avec ce travail de mise en espace, donc qui a été effectivement assez réussi l'année dernière, donc avec un petit peu de pression du coup cette année pour essayer de faire tout au moins
de continuer sur la lancée
aussi
quoi.
Bien en tout cas l'aventure effectivement de James a dit déjà pas mal de choses l'année dernière, était avec des textes écrits par et les résidents de Portageuil et les adhérents du Chat qui tousse, avec un regard en ce qui concerne les résidents de Portageuil de François Beaune. Cette année, moi, j'ai eu envie d'une association un petit peu particulière, avec, c'est-à-dire d'un mélange avec un groupe de rock qui s'appelle Janine Joplin, donc avec leurs textes. Et donc au départ, ils devaient vraiment être avec nous sur scène, ce que j'aimerais faire, ce que je suis sûre de ce mélange entre le groupe de rock et des textes dits par les résidents et les adhérents. Au niveau de la logistique des correspondances, c'était un tout petit peu compliqué, mais on aura quand même avec nous la chanteuse Françoise de Janine Joplin qui sera sur scène avec nous demain. Donc il y aura d'une part des textes du groupe, donc dit par les adhérents et les résidents, et d'autre part des textes écrits par James et par un résident de Portageuil, Malik, voilà, qui seront
Malik,
également
alias Script Zone, c'est très important pour lui si on dit pas Script Zone à la radio.
D'accord, il va nous tuer, il va pas venir demain, ça va être terrible.
C'est son nom, donc.
Voilà, et donc on essaie de faire au mieux avec le peu de temps qu'on a, et puis cet accueil des correspondances. On espère que demain les cieux seront avec nous. Puisqu'on est en plein air.
Faut espérer. Et que, justement, Sophie, voilà. Sur Janine Joplin, on a bien compris qu'avec eux, c'est la rockitude d'attitude,
oui.
Évidemment. Et puis, on joue avec les mots, ne serait-ce que dans le titre de leur groupe. Mm-hmm. Ce sont des textes qui vous ont accroché, ou c'est la musique qui vous a accroché avant ? Comment ça se passe ?
Alors, au départ, en fait, ce que je dois dire clairement, honnêtement, c'est que j'avais envie, comme ça, j'avais juste une idée, une envie d'association, en fait, avec quelque chose de très rock. Je connaissais pas forcément Janine Joplin, mais quelque chose de très rock, très carré, et avec un contraste comme ça, quelque chose de très rock, et puis avec des textes dits par des gens, et de faire un mélange, un contraste. Donc c'était un challenge, un échange. Bon, entre-temps, j'ai été voir jouer Janine Joplin, et j'ai pas du tout été déçue du côté efficace, rock et rentre dedans. Donc et puis par ailleurs, avant d'aller les écouter, j'avais eu en main leurs textes, et que je trouvais très beau, et très intéressant de pouvoir aussi les dire, parce que c'est vrai que souvent, dans un groupe de rock, c'est pas c'est pas le texte en premier qu'on entend. Il y a l'énergie, il y a les guitares, tout ça. Et j'avais envie qu'on puisse entendre les mots tout simplement, parce que je les trouvais beaux et je trouvais intéressant qu'on puisse les entendre davantage.
J'aimerais rajouter une chose, c'est que la rencontre avec Janine a été vraiment quelque chose d'énorme, parce que elle s'est faite aux correspondances l'année dernière pendant Trace de vie. Oh. On a eu un contact avec eux, c'est-à-dire que moi je connaissais le groupe, mais j'avais pas eu encore l'idée de faire quelque chose avec eux. Simplement, la chanteuse de Janine Joplin est venue me voir en disant « Mais waouh, quelle énergie, c'était génial et tout !» Donc ça nous a permis de dire « Ben on va faire un truc ensemble, quoi !» Et donc de le proposer aux correspondances, en nous adaptant aussi aux contraintes du festival, en étant aussi capable d'être dans un dialogue humain et d'accepter les contraintes de part et d'autre, et surtout d'avoir notre place sur scène en tant que éducateur, résident, usager du GEM, artiste aussi.
comment tu as dit tout à l'heure, écriveur aussi. Hein.
Écriveur, moi je suis un écriveur.
Écriveur.
Je suis un apprenti.
Donc, la possibilité de retrouver...
Enfin, en gros, je ne suis pas publié, quoi.
De retrouver James, Sophie, Scriptzone et puis les autres. C'est quand demain, James? C'est à quelle heure? Alors, et à quel endroit?
À 14h, Trace de Vie, Place d'Herbès à Manosque, hein, même heure, même endroit. Trace de Vie spéciale rock en prose. Donc des lectures en scène de textes de Janine Joplis, des textes qui ont été écrits par Françoise Verani mais aussi par Stéphane qui est présent et qu'on aimerait bien entendre s'exprimer sur le groupe, deux textes que j'ai écrits et un texte magnifique écrit par Malik Diane Scriptzone, qui est un artiste local qui commence à monter sur la scène slam, et je vous assure qu'il écrit des textes qui sont d'une maturité incroyable, quoi.
Je confirme aussi. Stéphane nous a rejoint de Janine Joplis. Très, très brièvement, Stéphane, on va parler que des textes, justement, oui. pas de musique, puisque le rock'n'roll, on connaît bien, vous le savez. Les textes, pour vous, c'est important?
Oui, très très important. J'entendais Christian qui parlait tout à l'heure de matière, d'argile. Moi, je le vois aussi un petit peu comme ça. Au départ, j'ai un côté plus ludique dans la bord, je pense plus à un Lego ou à un mécano, mais à un moment donné, forcément, il y a de soi qui vient dedans, et puis ça devient vraiment de l'argile. Et le fonctionnement qu'on a dans le groupe, c'est que bon ben, un texte est mis en place, je le balance comme ça à l'ensemble du groupe, et puis après, il est transformé, découpé, tout le monde
s'en sert. C'est vous qui écrivez la plupart du temps ?
L'essentiel, on a aussi des collaborations avec d'autres copains qui, de temps en temps, nous en proposent un, quoi. On leur prévient, hein, on va le hacher, on va en faire quelque chose. Et donc c'est très intéressant. Moi demain, je suis impatient de voir un petit peu ces textes-là. Bon, c'est des originaux en plus, ils n'ont pas été recoupés. Donc les revoir, les entendre à nouveau. C'est vrai que quand c'est au cœur du magma qu'on met en place au niveau sonore, on n'entend pas bien vraiment l'essence même de ce qui est dit. Donc moi je suis assez impatient de voir ça. Donc merci à Sophie et à James de mettre ça en place.
Et on y sera aussi, c'est demain 16h, hein, James, c'est bien ça?
14h, 14h, place d'Herbès. Mais il y aura un affichage particulier, j'ai commandé 8000 affiches, donc on va savoir que je fais la promotion.
C'est parfait.
Et du festival et de Traces de Vie.
Merci à tous les trois, à très bientôt sur notre antenne et ailleurs, évidemment. Retour en plateau au cœur des correspondances de Manos qui démarre officiellement cet après-midi. Olivier Chaudançon, on a le plaisir d'accueillir Moshe Sakal, qui est un écrivain israélien qui est déjà intervenu tout à l'heure. Pourquoi le choix de Moshe Sakal en résidence à Manos?
Alors d'abord, c'est l'éditrice française de Moshe Sakal, Marie-Pierre Grasse-Dieu chez Stock, qui m'a conseillé la lecture de ce livre-là. Elle m'a dit, tiens, lis ça, ça devrait vraiment t'intéresser, etc. Donc je voulais lui rendre cet hommage, puisque cette histoire a commencé grâce à elle. Et puis ensuite, ce qui m'a intéressé, après avoir lu ce livre et l'avoir beaucoup apprécié, mais ça vous allez en parler tous les deux avec Moshe, ce qui m'a intéressé, c'est le parcours de Moshe et la multiplicité des cultures qui sont en lui, puisque Moshe vient de Tel Aviv, mais sa famille est originaire du Caire, de Damas également. Il a cet amour pour la France, il parle d'ailleurs parfaitement français. Voilà, donc c'est toutes ces cultures-là. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'avoir un auteur aussi qui nous amène cet éclairage-là à Manosque. Et voilà, lorsque j'ai appris qu'il était demandeur d'un séjour ici pour avoir du temps pour écrire et puis pour nous en donner un petit peu pour rencontrer des lecteurs, le public, je me suis dit que c'était une occasion à ne pas rater.
Moshe, vous allez rester combien de temps sur Manosque?
Un mois.
Pendant un mois, donc il va falloir en profiter, hein. Il va falloir faire vite. On va parler de votre album, de votre livre Yolanda, qui est paru chez Stock, Olivier vient de le dire. C'est une histoire familiale. C'est l'histoire de Yolanda qui est votre grand-mère.
Inspirée par ma grand-mère.
Inspirée par
Judith.
Oui, inspiré par votre grand-mère. Et on pénètre comme ça dans une famille, Olivier l'a dit, qui est à cheval entre Israël, mais également le Caire, et puis Damas et la Syrie. C'est inspiré, mais en même temps, c'est votre vie et c'est aussi un regard intérieur sur la société israélienne que vous nous proposez. C'est ça, je pense, Olivier, qui a dû aussi vous plaire dans cette saga familiale, puisque c'est une véritable saga. On suit deux générations de personnages. Cette personne, elle est en plus handicapée. Elle a des soucis moteurs qui sont récurrents. Et elle est très liée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son petit-fils. Son petit-fils, c'est vous. C'est Momo.
C'est Momo, c'est le petit-fils aîné. Oui.
Comment avez-vous eu cette idée? Il y a une part de fiction, on le sent, mais il y a aussi une part de vécu et de, vraiment de familial.
Oui. Bon, c'est mon quatrième livre publié en Israël, le premier en France. J'écris depuis l'âge de 17 ans, mais je n'ai jamais eu l'idée d'écrire sur ma propre famille. Et non seulement, je me suis jamais posé la question pourquoi. Et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai écrit une nouvelle que j'ai publiée sur Yolanda. Vous autres, vous dites Yolanda, moi je dis Yolanda. Donc,
il faut nous excuser. Hein.
Tous ceux qui ont lu cette nouvelle m'ont dit, il faut que ça soit un roman. Mais là, ma propre grand-mère était toujours en vie et c'était hors question parce que, entre autres, je parle de beaucoup de secrets.
Oui, il y a un secret de famille à la fin du livre qui est assez terrible et qui sous-tend, qui permet une autre lecture d'ailleurs du roman après.
Oui, c'est un roman de secrets. Je pense que chaque fois qu'on découvre, qu'on dévoile un secret, il y en a un plus grand derrière. Après le décès de ma grand-mère, je suis allé au Caire pour la première fois. Parce qu'il faut dire que ma grand-mère, tout en regrettant le Caire, le boycottait toute sa vie. C'est très complexe. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai osé écrire ce livre. Et que je me suis dit, il faut parfois écouter les voix. Si des gens me disent que cela doit être mon prochain roman, il faut peut-être que je l'écrive. Et ce n'est pas seulement pour des raisons familiales, personnelles, que je n'ai jamais osé écrire sur ma propre famille. Je pense que c'est plus profond que ça, c'est lié à l'histoire des Juifs séfarades en Israël, qui est une histoire assez silencieuse. Et notamment cette communauté égyptienne. Parce que quand on parle souvent de juifs séfarades en Israël, on parle des juifs de Maroc et autres. Surtout du Maghreb, je pense. Et on parle souvent des histoires tristes et des gens qui sont venus très pauvres dans le pays. Ce pays qui a été dominé par les Ashkénazes, à savoir par les Européens. Et là, je parle d'une autre famille. C'est une famille qui est venue assez aisée, d'une part. Alors mon père, il me dit toujours, je n'ai jamais été discriminé de ma vie, parce que nous sommes venus à Tel Aviv. Mon père, c'est-à-dire mon grand-père, mais le père de mon père, il a acheté un appartement au centre de Tel Aviv. Alors moi, je n'ai jamais été discriminé. Je lui dis toujours... Pas toujours, mais depuis quelques années, je lui ai dit « Mais tu as été bel et bien discriminé parce que tu n'as jamais eu droit à ton histoire. » Et ça, je trouve grave. Moi, j'ai été élevé entouré d'Ashkénazes. Et je pense que le fait que trois livres j'ai écrit sur les autres, je ne dis pas qu'il faut toujours écrire sur nous-mêmes, mais tout de même, j'ai renié et mon propre histoire,
c'est bien d'avoir...
la langue arabe, la langue française.
C'est ça, avec une certaine maturité, tout d'un coup, de se dire, tiens, je vais écrire aussi sur ma propre famille. Tout à l'heure, on a parlé de traces de vie avec des personnes, avec des parcours particuliers. Oui. C'est le cas de la plupart des personnages de votre livre. Ça se déroule à Tel Aviv. Tel Aviv qui est relativement préservé dans un pays comme Israël, qui est un pays qui est chamboulé. Hein. L'actualité, malheureusement, nous le montre régulièrement. Et c'est donc...
À part la météo, nous avons tout le problème. auquel vous pouvez penser. Mais il fait toujours beau.
Oui, c'est ce qu'on ressent. Et effectivement, c'est un pays où il y a une certaine douceur de vivre. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes dans le sud de votre pays qui n'existent pas à Tel Aviv. C'est ce que je voulais dire, oui. Particulièrement en pensant à la bande de Gaza, notamment. Il n'en demeure pas moins que c'est une plongée dans la société israélienne qui est intéressante, où on sent les traditions séfarades, vous l'avez dit, et également les traditions orientales, avec une autre grand-mère qui, elle, est syrienne. Donc là, il y a parfois des affrontements qui se font entre femmes d'une certaine génération. C'est assez cocasse. Et puis en même temps, on sent le dénouement, en fait, de votre livre, avec un grand-père qui s'est séparé de sa grand-mère, mais qui est toujours resté amoureux fou de Yolanda, comme vous dites, et qui veut absolument la reconquérir, qui n'y arrivera pas parce qu'elle a un caractère de cochon. Et en même temps, c'est assez poignant et c'est parfois même cocasse. Ce rapport entre le petit-fils qui va voir sa grand-mère et puis le grand-père qui lui demande des nouvelles, comment elle va, etc. Elle ne me parle jamais de toi, elle t'a oublié, elle t'a gommé de sa vie. Enfin, personnage dur quand même.
Oui, elle est très dure, mais elle ne connaît que les extrémités. Elle vit dans un double exil, tandis qu'au Caire, elle regrette Paris, qu'elle n'a jamais visité, d'ailleurs même après. Mais c'est une européenne bourgeoise fantasmée, si vous voulez.
Ah oui,
elle est très dure.
Mythifiée, oui. Paris, pour elle, c'est le paradis. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, d'un côté, mais de l'autre côté, quand Momo va s'installer à Paris et qu'il rejette l'accent à la fois égyptien de la maison et l'accent marocain de ses profs à l'Alliance française de Tel Aviv, pour l'accent parisien, Yolanda, elle fait semblant de ne rien comprendre, parce qu'elle roule le R comme Dalida, et pour elle, c'est ça, et l'accent.
C'est pas moi qui parlais de Dalida, puisqu'elle s'appelle Yolanda, c'est vous qui l'avez fait.
Tout à fait, oui. Oui.
Mais c'est évident que c'est un clin d'œil qui nous saute aux yeux aussi, parce que Yolanda, le Caire, évidemment, c'est Dalida quoi, aussi, oui. Quelque part.
Oui.
Vous l'aviez fait exprès ?
Un peu, oui.
Un peu ?
Oui. Et il faut dire aussi que c'est une femme très belle, et féministe à sa manière, dans un monde, notamment au Caire, où la société n'était pas forcément très libérale et très féministe, mais aussi oui. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces contradictions. Et le grand-père Georges, je l'ai écrit à l'image de mon propre grand-père, et qui a, on peut le dire, était vraiment chassé de la maison et est venu vivre avec nous quand j'étais enfant. Et on a parlé de lui, on parle jamais de lui, on n'a jamais parlé de lui, donc ça a vraiment touché à ma grand-mère, ma mère, ma propre mère qui a été toujours entre ces deux parents pas facile.
Et là, il y a un côté autobiographique, donc...
Oui, ouais. Oui, mais je joue entre les deux.
Et puis dans votre livre, il y a aussi un amour forcené à la littérature française.
Oui.
Et c'est un extrait que j'ai choisi qui moi me parle beaucoup. Je pense qu'Olivier va vite comprendre aussi. C'est à propos de trois oncles de cette famille, véritablement, oui. Vous allez voir. Je ne suis pas un lecteur professionnel, mais je vais vous faire cette lecture. C'est du Moshe Sakal, c'est un extrait de Yolanda. Trois oncles, trois moustaches. L'un avec une moustache très épaisse, retombant des deux côtés de la bouche, telle la moustache d'un morse. Entre les deux pointes bouclées, un menton rebondi comme le ventre d'un gamin, c'est l'oncle Gustave. Pour l'oncle Honoré, une moustache assez mince sous le nez et un bouc clairsemé sous sa lèvre inférieure. Et enfin, la troisième moustache la plus soignée, celle de l'oncle Marcel. Quand j'avais annoncé à grand-père Georges que je voulais devenir écrivain lorsque je serai grand, il avait agité sa canne en hurlant « Espèce d'idiot !» Comment deviendras-tu écrivain ? Un écrivain est quelqu'un qui reste assis 18 heures par jour à son bureau et qui écrit, écrit, écrit. Ses jours et ses nuits ne lui appartiennent plus. Viens. Il m'avait fait signe de l'aider à se relever, avait pris appui sur sa jambe en plastique et avait commencé à trotter. En s'aidant de sa canne, j'avais emboîté son pas jusqu'à la chambre aux fenêtres. Toujours fermés. Ils étaient totalement différents les uns des autres. L'oncle Gustave était chauve sur le devant du crâne et les rares cheveux qui se dressaient à l'arrière de sa tête étaient coupés courts. Il portait un nœud papillon, grand-père Georges avait le même, et ses deux lèvres disparaissaient sous la moustache. Ses grands yeux semblaient contempler quelqu'un qui se trouvait à sa gauche un peu plus bas que lui, et la paire de cernes sous ses paupières inférieures témoignait qu'il ne dormait jamais. À la droite, d'oncle Gustave était accroché oncle Honoré, des cheveux un peu gras séparés par une raie, les lèvres closes, l'air songeur, la paume de sa main droite posée sur le cœur, entre la peau de sa poitrine et sa chemise tachée, dont la moitié inférieure était rentrée dans son pantalon tiré très haut au-dessus des hanches. Seul oncle Marcel regardait l'objectif en face, dévoilant de grands yeux noirs rêveurs, entourés de cercles sombres éternels, la veste boutonnée jusqu'au dernier bouton, la moustache soigneusement bouclée, ses beaux cheveux lisses séparés par une raie, mais il était loin d'être un bel homme. En tout cas, c'est ainsi que je le pense aujourd'hui, et il me semble que grand-père Georges n'aurait pas été outré par cette affirmation. Ces trois tontons, ce sont trois grands auteurs de la littérature française.
En effet.
Gustave, c'est Flaubert.
Oui.
Honoré, Balzac. Et Marcel, c'est Proust. Ce sont des lecteurs qui ont accompagné votre vie, des lectures qui ont
bien
accompagné
entendu.
Votre vie.
Toujours, oui.
Et qui font partie de votre famille de manière évidente.
Oui, alors là, je parle d'un grand-père d'origine ashkénaze. Il est né au Caire, mais il est d'origine tchèque. Et non comme Yolanda, il n'a pas de frères et sœurs. Enfin, il n'a pas beaucoup de frères et sœurs, comme dans les familles séfarades. Alors, il crée ces trois oncles pour les léguer à Momo. Et je dis aussi, j'écris que c'est sa généalogie qu'il n'a peut-être jamais eue.
Donc il s'était inventé une famille.
Oui, je parle de... Oui, parce que sa culture, tout comme la culture de Yolanda, c'est la culture française. Et la France aussi, qu'il n'a jamais visitée.
Olivier, quelle belle famille, Flaubert, Balzac et Proust.
Oui, et puis j'ai l'impression que ce livre, je pourrais pas en faire un inventaire, mais il est traversé de clins d'œil sans cesse à la littérature. Je sais pas, on peut aussi imaginer qu'il y a un petit salut à Émile Ajar, La vie devant
Tout
soi,
fait,
avec
oui.
la figure de la grand-mère.
Et Momo,
évidemment. Je sais pas, certaines fois, la fantaisie peut évoquer Albert Cohen, Les Valeureux. Enfin, je sais pas, il y a plein de petits messages amicaux à la littérature.
Les fêtes parisiennes qui font penser à Boris Vian aussi, quelque part. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes.
Je pense que nous autres séfarades, nous avons beaucoup de chance parce qu'on connaît à la fois la culture européenne et la culture orientale, mais qu'il ne faut jamais renier. Et c'est le message, si on peut parler d'un message dans la littérature, de ma propre génération, qui est la troisième génération en Israël. On ne renie plus, on renie beaucoup moins notre propre histoire. Et la langue dans laquelle nous étions baignés, parce que j'ai un côté séfarade arabe, arabophone, et je me suis mis à la langue arabe et il y a 2 mois. C'est ce que j'ai fait tout l'été, à part d'écrire mon nouveau roman, qui a lieu à la fois à Damas, à Jaffa, à Beyrouth et à Tel Aviv. Et c'est là que je me suis mise à cette langue, qui est la langue maternelle de mon père, que je ne parle pas. C'est atroce, je trouve.
Et vous recherchez vos racines, on l'a bien compris.
Je les trouve.
On l'a saisi.
Je les retrouve.
Vous êtes vous allez discuter avec le public, je pense, c'est sur une scène publique, Olivier, dans le cadre des correspondances, Moshe. Il y a un regard croisé aussi, je crois.
C'est à deux moments, un apéro littéraire du comité de lecture, et là j'ai par contre un petit...
Alors il y a le comité de lecture demain, jeudi à 11h.
Merci.
À la place Hervé, à la médiathèque. Et puis il y a la rencontre... samedi à 18h, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Merci de me dépanner. Et ça, c'est une surprise, la sieste musicale.
Oui, il fallait pas le dire. Oh là là.
Mais c'est pas grave.
Et je tiens à remercier Olivier Chedonçon et toute l'équipe des correspondances qui sont très aimables pour cette résidence et dans cette superbe ville de Manosque.
On aura l'occasion de se revoir, vous vous en doutez, pendant un mois. On va se quitter en écoutant juste une réflexion, parce qu'on vient de parler d'Israël. C'est quand même un pays particulier dans l'histoire de l'humanité. Oui. Et c'est une réflexion d'un de vos personnages, et je la trouve magnifique.
Et traduit par Valérie Zenati.
Traduit par Valérie Zenati, qui a été reçue plusieurs fois aux correspondances.
Oui, et qui est née à Nice, pas loin de Nice.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est un personnage, alors je ne sais pas comment on appelle, Zavta, une histoire que j'ai dit à Zavta.
Zavta, c'est grand-mère en hébreu.
La grand-mère. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël, je pensais que c'était un pays très religieux, parce que c'est la terre sainte. Zaftah rit et a dit « Non, bête, c'est simplement la terre qui est sainte, pas les gens. » Voilà, on va se quitter en écoutant ça parce que...
Bête, c'est la Philippine qui s'occupe de sa grand-mère.
Tout à fait.
De cette grand-mère.
Reportez-vous au livre de Moshe, Moshe Sakal, Yolanda, c'est paru chez Stock, et vous comprendrez pourquoi la terre est sainte et pas les gens. Merci Moshe, merci Olivier,
beaucoup.
Bon festival à tous, et on se retrouve demain. Merci Agathe pour la régie.
Merci François.